Du 27 au 2 juillet, c'est le Minifest au Medley Simple Malte. Plus de 65 artistes lors de 22 spectacles, dont Eddie King,
Fred Dubé,
Yannick Demartino,
Gabriel Caron,
Didier Lambert,
Charles Beauchesne,
Daniel Grenier,
Chantal Lamarre
et plusieurs autres.
Le Minifest, le 19e plus gros festival d'humour à Montréal.
Pour plus d'infos et pour vous procurer des billets, www.festivalminifest.com.
Bonjour à tous nos auditeurs, bienvenue à la Photomédia. Vous êtes en compagnie d'Émilien Roscanou à l'animation. Aujourd'hui, nous allons parler de trois sujets, certains un peu plus légers, certains un peu plus lourds. Donc aujourd'hui, autour de la table, nous avons Myriam Bernin ainsi que Camila Rodriguez-Sea. Bonjour.
Bonjour.
Donc ce soir, on va parler de trois sujets assez importants qui ont occupé l'espace médiatique ces dernières semaines. Tout d'abord, je vais vous parler de l'événement assez tragique qui est survenu à Orlando. Donc, alors qu'un homme troublé et radicalisé a tué 50 personnes et en a blessé 53 autres dans une discothèque gay à Orlando aux États-Unis, en Floride. Donc, évidemment, les médias ont couvert l'événement sur le vif et on n'a pas été à l'abri du sensationnalisme. Un autre problème, cependant, qui est survenu dans le traitement de cette tragédie-là par les médias, c'est le problème du whitewashing dont ont fait preuve les médias, c'est-à-dire qu'ils ont présenté les faits de façon biaisée d'un point de vue occidental, en présentant cette tuerie-là comme étant la plus meurtrière des fusillades de l'histoire des États-Unis. Cette statistique-là est biaisée dans le sens où c'est la plus importante des dernières décennies. Oui, elle frappe l'imaginaire par sa sauvagerie, mais de bien pires massacres ont été perpétrés par le gouvernement états-unien envers les Autochtones, par exemple, ou encore envers les travailleurs dans les luttes ouvrières dans la première moitié du siècle dernier. On peut penser par exemple au massacre de Wounded Knee de 1890, où la cavalerie états-unienne gouvernementale, se présentant avec un drapeau blanc, a massacré 300 Amérindiens Lakota dans leur réserve. Ou encore le massacre de Blair Mountain de 1921, où il y a 100 travailleurs du charbon qui ont été tués par une armée privée engagée par le gouvernement alors qu'ils tentaient de se syndiquer et de militer pour de meilleures conditions de travail. C'est donc inexact, en fait, de qualifier la tuerie d'Orlando de la pire de l'histoire des États-Unis, sans quand même enlever à l'horreur et à l'ampleur de ce massacre-là qui a touché beaucoup de personnes et qui nous a tous désolés. Suite à ces événements-là tragiques, il y a un autre événement qui a fait couler beaucoup d'encre, c'est quand le sénateur démocrate Chris Murphy a décidé de faire un filibuster ou une obstruction parlementaire. Il l'a fait pour forcer la tenue d'un vote sur le contrôle des armes. Chris Murphy, c'est le sénateur du Connecticut, l'État où, vous vous souvenez, 20 enfants avaient péri à l'école Sandy Hook, des mains d'un autre fou qui est entré là avec des fusils d'assaut. Donc, autant dire que la blessure était encore vive et a été ravivée par cet événement-là d'Orlando.
Mais Émilien, c'est quoi exactement un filibuster?
Ben, merci de me poser la question, Camilla. L'obstruction parlementaire, le filibuster en anglais, c'est une technique parlementaire qui vise à retarder le plus possible l'adoption d'une loi à l'aide de moyens réglementaires de la Chambre. Donc, on suit le protocole, puis le plus souvent, ça consiste à prononcer délibérément des discours interminables pour faire obstruction à un débat, ou petit problème technique. Mais justement, cette technique-là du filibuster a déjà été utilisée au Sénat dans la Rome républicaine antique. Donc, c'est de là que ça trouve son origine. Mais aujourd'hui, aux États-Unis, au Sénat, il y a eu plusieurs exemples. En 1953, un sénateur, Wayne Morse, a tenté d'empêcher l'adoption d'une loi pétrolière en faisant un discours de 22 heures et 26 minutes. Mais moi, je suis pas capable de parler aussi longtemps que ça.
T'es sûr?
Donc, La technique utilisée à cette époque-là, c'était la lecture du bottin téléphonique. Imaginez-vous.
Oh, wow!
Donc, c'est parce que le speaker du Sénat américain peut pas interrompre un sénateur durant un discours. Donc, ils disent que c'est un discours, mais en fait, c'en est pas vraiment un. Plus récemment, Ted Cruz, qui était candidat aussi à l'investiture républicaine, avait lu à voix haute des contes pour enfants pour bloquer un vote sur l'Obamacare pendant plus de 21 heures. Donc, ce sénateur-là, le sénateur Murphy, a tenté d'obliger le Sénat à tenir un vote sur le contrôle des fusils d'assaut en faisant son filibuster, son discours, pendant 15 heures, ce qui est quand même louable quand on le compare au meilleur.
Mais je me souviens qu'ils avaient utilisé cette technique-là aussi dans House of Cards. Je ne sais pas si tu as vu cet épisode-là, mais est-ce
Attention, pas de spoil.
OK.
Mais j'ai vu l'épisode dont tu parles, Camilla, puis c'est vraiment fou avec toute la course à la chefferie républicaine. On voit qu'il y a plusieurs éléments de la dernière saison d'House of Cards dont on ne parlera pas ici ce soir, pour ne pas spoiler personne, mais qui en fait serait crédible.
Puis, est-ce que ça a fonctionné dans le cas dont on parle?
Malheureusement, non. Le Sénat a refusé. Le Sénat est contrôlé, vous le savez, par les républicains, majorité républicaine. Il y a des graphiques, justement, sur Internet qui circulent avec le montant des dons faits par la National Rifle Association à chacun des sénateurs républicains, la NRA, qui est le plus grand lobby pro-armes aux États-Unis. Donc, ces sénateurs-là qui ont refusé de voter, on comprend un peu mieux pourquoi, en voyant les millions de dollars qu'ils reçoivent en dons de la part de ce lobby pro-armes.
Des comptes bancaires bien fournis.
C'est ça, et des campagnes clés en main. Donc, hier, il y a aussi un événement qui a été très médiatisé en terminant. Donc, ici à la Photomédia, on est très à jour dans nos informations, un événement qui s'est passé hier. Donc, un sit-in a été organisé par les démocrates à la Chambre des représentants pour forcer la tenue d'un vote sur le contrôle des armes. C'est un événement qui sort un peu de l'ordinaire parce que les États-Unis en Chambre sont habituellement très respectueux du protocole. Puis ce qui est très intéressant, c'est que C-SPAN, qui est la chaîne qui diffuse habituellement les débats, un peu comme notre chaîne de l'Assemblée nationale ici au Québec, a été obligé d'utiliser l'application Periscope pour diffuser en direct les images
la technologie.
Oui, pour diffuser en direct ces images-là du sit-in parce que les caméras avaient été fermées dans la Chambre des représentants parce qu'elles sont contrôlées par la majorité en Chambre qui est républicaine, qui voulait vraisemblablement pas que ça soit diffusé. Donc, tu vas me demander si le sit-in qui a duré 24 heures, donc où plusieurs sénateurs, représentants, pardon, démocrates se sont relayés pour s'asseoir sur le plancher, pour bloquer les débats, a fonctionné, a forcé les républicains à tenir un vote sur le contrôle des armes.
Tu lis dans mes pensées?
Ben, je vais te dire que malheureusement, ça n'a pas fonctionné non plus. Évidemment, parce que pas du côté législatif, parce que c'est complètement bloqué de ce côté-là par les républicains, mais au moins ça aura eu le mérite d'attirer l'attention médiatique en posant ce geste-là qui sort de l'ordinaire. Donc, parlons-en bien, parlons-en mal, mais parlons-en. Donc, au moins on en a parlé. Voilà, c'est un peu ce qui s'est passé du côté de la tuerie d'Orlando et des vagues médiatiques qui ont suivi. Maintenant, Myriam, on va se diriger vers toi.
Oui!
Oui, aujourd'hui, tu vas nous parler d'un sujet, peut-être un peu moins lourd, un peu moins grave d'un point de vue violence, mais un sujet quand même lourd de conséquences, le sujet du Brexit. Donc, dans ces derniers mois, ce mot-là revient souvent dans les médias, le Brexit, on l'a tous entendu, mais on sait plus ou moins de quoi il s'agit. Pour être certain de bien comprendre, est-ce que tu pourrais un peu nous expliquer d'où vient ce terme? De quoi il en ressort?
Brexit par là, Brexit par ci. Comme tu l'as dit, ce mot revient très souvent en ce moment dans les médias. Mais savons-nous vraiment de quoi il s'agit? Alors, au cas où vous auriez complètement décroché de l'actualité internationale ces derniers mois, je vais vous faire un petit résumé rapide. En 2003, David Cameron avait affirmé que s'il était réélu aux prochaines élections, il organiserait un référendum sur la question suivante. Le Royaume-Uni devrait-il rester un membre de l'Union européenne ou quitter l'Union européenne? C'est une promesse qu'il a tenue. Et qui fait suite en fait aux pressions politiques exercées par certains députés de son parti, qui est, rappelons-le, le Parti conservateur, ainsi que par le UK Independence Party, qui est un parti d'extrême droite et clairement eurosceptique. Pour eux, la question de la souveraineté du Royaume-Uni est largement remise en cause par leur présence au sein de l'Union européenne. Donc le terme Brexit, en fait, est une fusion des mots Britain, Grande-Bretagne, et Exit, qui signifie sortie. David Cameron est lui-même opposé au Brexit, mais c'est une question qui divise vraiment la population. Et justement, nous allons connaître les résultats à 22h30, heure du Royaume-Uni.
Je ne veux pas gâcher la fin de ta chronique, Myriam, mais est-ce que tu as un pronostic à nous faire? Est-ce que tu penses qu'un des deux côtés va l'emporter?
Oui, mon pronostic serait que le Brexit ne passe pas. Sachant qu'on a les résultats dans moins d'une demi-heure, c'est...
C'est assez excitant.
Vraiment.
On va le publier sur notre page Facebook. Moi-même, au travail avec deux collègues, on a un grand tableau.
C'est vrai.
Et puis, on a tous fait nos prédictions sur le Brexit. Non seulement s'ils allaient rester ou partir, mm-hmm. mais quel allait être le pourcentage. Donc, on a bien hâte de
voir. C'est quoi ton pronostic?
Oh, j'ai dit qu'ils allaient rester avec 56%.
Ce serait vraiment serré selon moi. Camilla, qu'est-ce que tu en penses?
De mon côté, j'ai pas internet ni de télévision depuis une semaine. Donc, j'étais sur
Camilla
la planète Mars, totalement déconnectée. Et sincèrement, j'avais oublié que c'était aujourd'hui Brexit. Je m'excuse.
Il n'y a pas de problème.
Les résultats tantôt.
On verra les résultats tout à l'heure.
C'est pas grave. Mais donc, Myriam, si le Brexit venait à passer,
oui.
ça serait quoi les conséquences d'un vote comme ça?
Alors, imaginons un instant. Il est 17h30 ici au Québec. Notre émission se termine tout juste et la nouvelle tombe. Ouf. Le Brexit l'emporte. Bien sûr, le résultat fait la une de tous les médias et il est temps pour le Royaume-Uni et le gouvernement Cameron de penser à la suite. Tout d'abord, cela aura évidemment des conséquences au niveau économique. Dès le lendemain des résultats, les institutions financières pourraient être très instables. En ce qui concerne le plus long terme, le dirigeant du Parti pour l'indépendance du Royaume-Uni, dont je parlais tout à l'heure, Nigel Farage, a affirmé que le Royaume-Uni peut connaître une prospérité économique sans l'Union européenne, à condition d'une politique d'immigration plus restrictive. Alors que plusieurs entreprises, au contraire, telles que Airbus et Ford, ont mis en garde le pays sur les conséquences néfastes du Brexit pour l'industrie britannique. Ensuite, au niveau européen, il sera aussi question de renégocier les accords en cours avec l'Union européenne. De ce côté, les pro-Brexit prennent comme exemple en fait la Suisse, qui se porte bien, et se disent alors pourquoi pas le Royaume-Uni, car selon eux, le pouvoir est aux mains de Bruxelles, entre la Commission et le Conseil européen, qui prennent les décisions pour tous. De l'autre côté, les anti-Brexit affirment que cela va poser beaucoup de problèmes avec les États membres de l'Union européenne et qu'une sortie serait vraiment lourde de conséquences, notamment avec la France et l'Allemagne. Ce qui amène aux conséquences possibles au niveau des relations internationales, il ne faut pas l'oublier, le Royaume-Uni pourrait perdre de son influence diplomatique, notamment sur les négociations commerciales. Et les États-Unis, qui sont également très proches diplomatiquement en fait, du Royaume-Uni, ont déjà fait comprendre qu'il est dans leur intérêt que le Brexit ne passe pas. Même chose pour le Japon. Ce résultat aurait aussi des conséquences sur le statut de l'Écosse. Et oui, car l'un des arguments utilisés par les anti-indépendantistes était que si l'Écosse devient indépendante, elle serait exclue de l'Union européenne et connaîtra un long chemin pour y revenir, un long chemin difficile. Enfin, du côté du gouvernement lui-même, on parle d'un remplacement possible du Premier ministre Cameron si le Brexit l'emporte.
Oui, parce que ce serait un échec personnel.
Exactement.
Donc,
oui.
Toute sa carrière, il s'est battu pour ne pas que ça arrive.
Exactement.
Et puis, ce serait quoi la dernière tendance concernant le vote? Est-ce que tu sais?
C'est ça. J'ai regardé donc tout à l'heure, selon le dernier sondage Ipsos Mori, donc qui a été commandé par le quotidien Evening Standard, qui date d'aujourd'hui, donc vraiment c'est assez frais, c'est le maintien dans l'Union européenne qui l'emporterait à 52%. C'est donc vraiment difficile à dire, tant le résultat est serré. En tout cas, ce sondage donne un résultat vraiment très serré.
On connaît ça, nous, des résultats très, très serrés à des référendums.
C'est vrai, c'est vrai. Je me souviens. En tout cas, si le Brexit passe, ce serait une première, car aucun pays n'a encore quitté l'Union européenne. Réponse juste après l'émission.
Ben, on a hâte de voir. Merci beaucoup, Myriam.
De rien.
Donc maintenant, on se quitte en chanson avec How Wonderful de Young Magic. Vous êtes de retour sur les ondes de choc.ca à la photo média en compagnie de votre animateur Émilien Roscanou. C'était la chanson How Wonderful de Young Magic sur leur album Still Life. Donc maintenant, au retour de la petite pause musicale, on s'en va vers Camilla qui va nous parler d'un sujet un peu plus léger, un sujet de petite taille avec une réputation difficile. Vous l'aurez deviné, Camilla s'est penchée sur la question des pitbulls.
Effectivement, Émilien. Après les sujets d'importance, disons, internationale que sont le Brexit et la tuerie d'Orlando, de mon côté, je vais vous parler des pitbulls et du traitement en particulier des sujets divers dans le journal de Montréal.
On a hâte.
Pourquoi? Parce que je peux et que c'est toujours une occasion de critiquer le journal de Montréal. Ça me fait tout le temps plaisir.
Je comprends.
Donc, attachez-vous bien. Je vais ouvrir le bal avec un article qu'ils ont écrit hier. Je parle du Journal de Montréal. Donc, un Montréalais, je ne sais pas si vous en avez entendu parler, en fait, un Montréalais aurait ordonné à son pitbull d'attaquer sa conjointe. C'est une nouvelle d'importance, si l'on est. Parce que, vraiment, chapeau au Journal de Montréal pour nous diffuser des faits divers aussi pertinents. Mais ces derniers ne sont pas aussi anodins qu'on pourrait le croire, puisqu'ils se placent dans le post-scandale sur le pitbull qui aurait tué sa maîtresse il y a environ 2 semaines, je dirais. Vraiment, c'est une bonne histoire pour les médias. Il y a du sang et des rebondissements, puisque le méchant dans l'histoire est l'animal loyal par excellence.
Le chien, le meilleur ami de l'homme.
Oui, effectivement.
Mais les pitbulls ont quand même la réputation d'être plus agressifs que le reste de leur congénères canins, si je peux dire, non?
Ils ont cette réputation-là, mais est-ce que c'est fondé comme réputation? Comme toujours, ça dépend à qui on demande, ça dépend probablement de qui finance quoi, qui donne quelle réponse. Certains argueront que les pitbulls sont responsables de la majorité des agressions de chiens, alors que d'autres diront qu'ils sont victimes d'une mauvaise image. Et malheureusement, les chiens n'ont pas d'attaché de presse.
Non, c'est ça. Donc, personne pour les défendre quand ils sont dans l'eau chaude.
Exact. Selon Frédéric Labbé, maître chien, interviewé par Radio-Canada en 2014, et oui, le problème n'est pas nouveau, un caniche pourrait développer un comportement aussi agressif qu'un pitbull.
Oh!
L'élevage des animaux, des deux animaux, pourrait en fait mener vers l'agressivité s'il était fait dans de mauvaises conditions. Donc, il semblerait que si les pitbulls aient un potentiel d'agressivité égal à d'autres chiens, parce qu'on parle quand même de chiens, ici, c'est des animaux qui peuvent être dangereux en général. C'est peut-être l'image des pitbulls, en l'occurrence, qui influence l'éducation qu'ils reçoivent par certains ou qui influence même le type de personnes qui vont avoir des pitbulls, qui vont les éduquer par la suite. Là, vous voyez où est-ce que je m'en vais. C'est un cercle vicieux.
Les stéréotypes et tout ça. Donc,
Exactement, oui. Mais au lieu de m'enfoncer dans ce débat, j'aimerais diriger votre attention sur la réaction du maire de Montréal. Est-ce que vous aimez ma musique? Denis Coderre. Ce dernier a expliqué que les pitbulls seront interdits à Montréal.
Ouh là là!
Les pitbulls déjà
grosse
existants,
nouvelle.
Oui, ne seront pas tués, mais ils seront stérilisés et devront obligatoirement porter une micropuce d'identification. En plus, ils devront aussi obligatoirement porter une muselière. Donc, on se croirait vraiment dans un film de science-fiction.
1984.
Oui, parce que si c'était des humains qu'on stérilisait puis qu'on forçait à porter des micropuces, ça serait une autre histoire. Mais ces mesures ne sont pas totalement folles.
J'ai des images étranges dans la tête.
Ça fait plaisir, parce qu'on sait qu'un chien stérilisé a tout de même moins tendance à être agressif. Mais n'empêche que, comme d'habitude, il semble que l'idée qu'on se fait de quelque chose est peut-être plus importante que la nature même de cette chose-là.
Non, effectivement. Et puis, Camilla, je voulais t'amener aussi sur l'amplification médiatique. On a beaucoup, beaucoup, beaucoup parlé de cette histoire-là des pitbulls. Mais
beaucoup trop.
Ouais. J'aimerais t'entendre là-dessus, justement. Est-ce que tu trouves que ça a été vraiment une orgie de nouvelles qui étaient, dans le fond, au final, que du fait divers?
Oui, mais en fait, c'est vraiment intéressant parce que dans son annonce que Denis Coderre a fait, il a dit que oui, sa décision a été influencée par l'attaque de la dame, donc l'attaque de la dame par son propre chien. Puis je me demandais dans quelle mesure est-ce que les décisions de nos politiciens doivent être influencées par les événements qui arrivent au jour le jour, parce que il me semble, à mon sens, que ces derniers devraient être capables de s'abstraire de tout ce jeu, disons, de sang, de qu'est-ce qui visuellement fait peur.
Oui, parce qu'au final, ces décisions-là sont prises un peu à vif. C'est des décisions qui sont prises un peu plutôt à basé sur des émotions aussi.
Oui, puis c'est le genre de choses qui arrivent énormément. Je veux dire, quand c'est pas des propriétaires, c'est les enfants qui sont attaqués. Et ça, ça arrive quand même souvent que les enfants se fassent attaquer par des chiens, par plusieurs races de chiens. Et
ou quand c'est pas les facteurs aussi.
Et effectivement, mais quoi de plus, je veux dire, parlant, qu'est-ce qui va faire vendre plus une copie qu'une photo d'une petite fille avec le visage défiguré par un chien? Moi, je veux dire, je pense que c'est triste, mais c'est dans la nature parfois des chiens d'être agressifs. Puis un politicien devrait, à mon sens, être capable de prendre des vraies décisions, de faire de la vraie politique sans surfer sur les événements. Et c'est vraiment le propre de Denis Coderre et aussi de Régis Labeaume, qui a d'ailleurs pris une mesure similaire.
Oui, et avant, ouais, avant Denis Coderre. Donc peut-être que Coderre était un peu jaloux de ne pas avoir réagi plus tôt. Mais...
Oui, mais on a l'impression, c'est ça, leur manière de gouverner donne l'impression qu'ils sont très proactifs. Pourtant, j'ai l'impression qu'au contraire, ils font... surfent sur des événements qui ont énormément d'attention médiatique. Ça fait que leurs décisions ont énormément d'attention. Mais les vrais enjeux de fond, où est-ce qu'ils sont? Où est-ce que sont les décisions sur le racisme systémique qu'il y a à Montréal? Ça, c'est le genre d'enjeu dont j'aimerais qu'on parle un peu
plus.
Oui,
c'est
que
ça. On brise une dalle de béton avec un marteau piqueur.
Oui.
Mais après ça, qu'est-ce qu'on fait réellement pour les aînés concrètement?
Effectivement.
C'est une très bonne réflexion que tu as là, Camilla. Puis moi, je me dis que dans tout ça, il y a aussi ce qu'on pourrait appeler la pression de la foule suite à ce genre d'événement qui fait évidemment, qui touche tout le monde. C'est horrible. Ouais. Une dame, des enfants qui se font attaquer par des chiens comme ça. C'est vraiment, à mon avis, aussi une certaine attente de la population que les politiciens agissent. Et après, c'est à eux, évidemment, de gérer ça et de prendre un peu de recul et de pas réagir dans l'émotion tout de suite. Mais ouais, ça doit être quand même difficile à faire, je pense.
J'imagine, ouais.
Oui. Eh bien, sur cette discussion aux implications multiples presque philosophique, je devrais dire.
Presque.
C'est notre plaisir.
Presque. C'était notre plaisir d'être avec vous ce soir à la Photomédia sur les ondes de choc.ca. Je rappelle qu'avec nous en studio, nous avions Camilla Rodriguez-Ca ainsi que Myriam Bernet. Mon nom est Émilien Roscanou, votre animateur. Et je vous laisse en chanson.
Avec Toujours, Toujours.
Avec Toujours,
yes.
Toujours de Bernary sur leur album Il Jésus.
Salut.
Bye.